France Culture.
Précisément 18h sur Culture, le journal Marie-Aimée Coppelotre. Bonsoir Marie-Aimée.
Bonsoir à tous et à toutes. À Bordeaux, le Rassemblement National fait sa rentrée. Un vrai meeting de campagne électorale. Nous serons sur place dans un instant. Quel avenir pour le journal Le Parisien? Les salariés inquiets après les rumeurs sur le probable rachat du titre par Vincent Bolloré. En Israël, l'appui indéfectible des États-Unis à Benjamin Netanyahou avec la visite du ministre des Affaires étrangères au mur des Lamentations cet après-midi. Il manifeste pour le peuple palestinien, les Espagnols, sur le tour cycliste de la Vuelta. Et le Premier ministre Pedro Sanchez soutient cette mobilisation. Jordan Bardella et Marine Le Pen sur scène, applaudis par la foule pour leur congrès de rentrée qui se tient à Bordeaux, aujourd'hui au Palais des Sports, où l'on retrouve Nicolas Ballu. Bonsoir.
Bonsoir.
Le parti d'extrême droite a tenu cet après-midi un vrai meeting de campagne électorale.
Oui, et pas un air de campagne municipale, mais bel et bien législative. C'est dans quelques semaines, ont affirmé tour à tour Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est la chef des députés RN à l'Assemblée qui commence par enterrer le gouvernement de Sébastien Lecornu, malgré l'abandon de la suppression de 2 jours fériés et le chantier de la justice fiscale.
La presse complaisante nous présente cela comme une nouvelle méthode. En termes de cuisine, cela s'appelle l'art d'accommoder les restes. Les restes d'une mauvaise cuisine, une cuisine immangeable et même toxique. Qui peut sérieusement penser que le salut du pays viendra de ces petits calculs? Ce dont nous avons besoin, c'est d'un retour à l'esprit et à la lettre de la Ve République et donc, au vu de la situation actuelle, d'un retour aux urnes.
Et nous serons là au rendez-vous de l'alternance, dit-elle, et cette alternance a un nom, Jordan Bardella. L'aspirant Premier ministre déroule un programme autour de 2 thèmes, rendre l'argent aux Français que l'État leur volerait, et la déclinaison de la préférence nationale promettant un référendum sur l'immigration, le conditionnement du RSA à 5 ans de présence sur le territoire français, ou encore des restrictions de l'accès au logement social pour les étrangers. Retour aux fondamentaux donc, mais surprise également au nom de l'orthodoxie budgétaire.
Notre contre-budget permettra d'économiser des dizaines de milliards d'euros chaque année dans le budget de l'État. Une partie de cet argent sera réaffectée au remboursement de la dette. Une autre aux baisses d'impôts et aux dépenses utiles comme la sécurité, la justice, l'école ou les soins. Voilà donc parmi d'autres, mes amis, une différence fondamentale entre eux et nous. Ils dépensent sans compter, nous, nous remettrons de l'ordre. Ils creusent la dette, nous libérons et nous simplifierons la France. Ils affaiblissent le pays. Nous mettrons tout en œuvre pour le redresser.
Et tout cela, nous pouvons le faire, avait assuré Marine Le Pen un peu plus tôt.
Merci Nicolas Ballu avec les moyens techniques de Benjamin Reyes. En plus du RN, la France Insoumise et les écologistes réclament ce dimanche le départ de Sébastien Lecornu. Nous n'irons pas à un rendez-vous avec Monsieur Lecornu, prévient Clémence Guettet, la députée LFI et vice-présidente de l'Assemblée nationale sur France Inter. Les socialistes, eux, souhaitent engager des discussions avec le nouveau gouvernement, mais sous condition. Il demande notamment la mise en place de la taxe Zucman. De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, appelle ce soir à un accord pour le budget 2026 autour de 36 milliards d'euros, moins que les 44 milliards prévus par François Bayrou. Sébastien Lecornu, qui donne rendez-vous demain aux organisations patronales ainsi qu'aux syndicats, la CGT et la CFTC. Les syndicats poursuivent la préparation de la grève de jeudi, le 18 septembre, pour mettre la pression sur le nouveau gouvernement. À ce mouvement s'ajoute la voix d'Arnaud Rousseau, le président du syndicat agricole FNSEA. Il annonce une journée de mobilisation le 26 septembre. Demain, un média supplémentaire pourrait tomber dans l'escarcelle de Vincent Bolloré. Première prise de position politique par le député socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, qui signe une tribune dans Le Monde aujourd'hui. Inquiet sur l'éventuel rachat du journal par le milliardaire conservateur, déjà propriétaire de Canal+, Europe 1 ou encore Paris Match. Pour l'instant, ce sont des rumeurs, mais la direction ne dément pas l'information publiée par le magazine Challenge lundi. Les journalistes de la rédaction ont écrit à Bernard Arnault, le propriétaire, Émeric Renoux, le délégué syndical du Parisien au SNJ, le principal syndicat des journalistes, on l'écoute.
Cette lettre demande effectivement à notre actionnaire, notre unique actionnaire, de ne pas vendre
On n'a pas reçu de réponse, malheureusement encore. Ce qu'on souhaiterait, c'est un signe encourageant qui pourrait nous permettre d'envisager beaucoup plus sereinement cette rentrée qui se fait sous le signe des économies pour nous, puisque nous sommes en pleine réorganisation avec des économies sur pas mal de postes aux Parisiens. Nous ne recevons aucune information de la part de notre employeur, de notre direction générale et de la présidence du groupe Les Échos Le Parisien. On a été reçu par le président, le PDG du groupe, jeudi, suite à une assemblée générale des salariés qui nous mandatait pour aller le rencontrer. Il nous a indiqué qu'il ne faisait aucun commentaire et qu'il n'était pas mandaté lui-même pour évoquer ce sujet-là. Donc pour l'instant, nous, on est face à un silence général sur ce sujet-là, donc ce qui, malheureusement, est de nature à alimenter des rumeurs et encore plus d'inquiétudes.
Pourquoi vous vous opposez à la vente à Vincent Bolloré ?
Parce que le journal Le Parisien, c'est un quotidien historique dont la fonction est d'apporter une information la plus juste possible, à la fois nationale et régionale et locale, et que pour nous, il est impensable qu'une ligne éditoriale avec une pensée politique claire et nette puisse prendre le pas sur cet ADN d'un journal populaire, de qualité et indépendant. Toutes les personnes qui se sentent concernées par la pluralité de l'information en France et son maintien et sa sauvegarde peuvent manifester leur soutien à la rédaction du Parisien.
Émeric Renoux, délégué syndical du Parisien au SNJ, interrogé par Mercia Nejicic. Et après ce journal, Frédéric Martel reviendra sur le sujet dans Soft Power. Condamnation ferme de la Roumanie et des membres de l'OTAN ce dimanche après l'intrusion d'un drone russe dans l'espace aérien roumain la nuit dernière. 4 jours seulement après le survol de 19 drones russes sur la Pologne, en riposte, l'OTAN déploie des avions et hélicoptères à la frontière polonaise. Des Américains licenciés après avoir critiqué Charlie Kirk sur les réseaux sociaux, ce militant raciste assassiné mercredi. Capture d'écran, LinkedIn et adresse de leur travail après avoir été dénoncé. Des employés d'écoles publiques, des pompiers ou encore des militaires ont été renvoyés. La droite radicale américaine fait de Charlie Kirk un martyr. Elle estime que toute critique à son encontre doit être punie. Une kippa sur la tête et les mains posées sur le mur des Lamentations à Jérusalem. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio pose aux côtés de Benjamin Netanyahou ce dimanche. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Marie-Aimée, bonsoir à tous.
Une visite pour réitérer le soutien américain à Israël.
Oui, c'était le moment fort de cette première journée de la visite de Marco Rubio en Israël, cette prière commune en compagnie de Benjamin Netanyahou au mur des Lamentations, le mur occidental, le dernier vestige de l'époque du Second Temple. Les deux hommes ont introduit des messages entre les pierres millénaires, un geste symbolique que le Premier ministre israélien a mis en avant pour souligner la solidité de l'alliance entre les deux pays. Il a qualifié Marco Rubio d'ami exceptionnel de l'État d'Israël, affirmant que sous l'administration Trump, cette alliance était plus forte que jamais. Le secrétaire d'État, pour sa part, a atterri en Israël avec l'objectif déclaré de mieux comprendre les conséquences de la récente attaque à Doha sur la suite de la guerre. Ce qui est arrivé, nous ne sommes bien sûr pas contents, mais il faut aller de l'avant, a-t-il déclaré. Le sujet principal des entretiens du chef de la diplomatie américaine avec ses interlocuteurs israéliens doit porter sur l'initiative franco-saoudienne de reconnaissance de l'État palestinien et la réponse qu'Israël entend lui donner. Les entretiens clés avec les responsables israéliens sont prévus pour demain et au programme également demain, une visite sur un site de fouilles archéologiques mené par une association de colons à Jérusalem-Est.
Michel Paul, correspondant de RFI pour France Culture à Jérusalem, merci. À 800 km du calme de la vieille ville de Jérusalem, les camions et les charrettes quittent la ville de Gaza. Alors qu'on compte près d'1 300 000 Palestiniens dans la ville de Gaza, 250 000 sont partis ces derniers jours selon l'armée israélienne, un chiffre plus proche de 68 000 selon la défense civile palestinienne. À Madrid, les manifestants envahissent en ce moment le parcours de la course cycliste La Vuelta, les manifestations en soutien au peuple palestinien qui ont déjà perturbé cette semaine la course cycliste et qui ont été saluées par le Premier ministre Pedro Sanchez. Pierre Chaperon, vous êtes à Madrid où s'achève le tour ce soir.
Oui, une déclaration faite par Pedro Sanchez lors d'un meeting à Malaga en Andalousie qui confirme bien que ce Tour d'Espagne aura été davantage sur le terrain politique, voire diplomatique, que dans sa sphère naturelle, c'est-à-dire le sport. Des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu quasiment chaque jour. Il y en a plusieurs actuellement sur le parcours à Madrid, comme vous pouvez peut-être l'entendre derrière moi. Elles ont poussé les organisateurs de cette Vuelta à modifier, parfois raccourcir le tracé. Banderoles, drapeaux, slogans, tentatives de bloquer la route de l'équipe Israël Premier Tech. Sit-in comme à Bilbao, cela a été le quotidien de ce troisième grand tour de la saison. Ce n'est pas une surprise, hein, dans un pays qui, via Pedro Sanchez, a reconnu l'État de Palestine dès mai 2024 avec le soutien de plus de trois quarts des Espagnols. La rumeur disait même que cette dernière étape n'aurait pas lieu ici à Madrid. Au final, les coureurs couperont bien la ligne d'arrivée vers 19h20. Sous haute protection, un millier de policiers sont déployés dans les rues de la capitale espagnole et on en oublierait presque le sportif puisque c'est le Danois Jonas Vingegaard qui s'apprête à remporter son tout premier Tour d'Espagne.
Pierre Chaperon à Madrid. La météo de demain, les températures entre 18 et 25 degrés. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Nicolas Leroulet.